7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 27 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le robinet du gaz russe fermé pour la Pologne et la Bulgarie. Décision de Gazprom. Nous verrons dès le début du journal que ces deux pays européens ne sont pas inquiets. Les autres titres, Anaïs.
Une assemblée nationale, mais avec quel député? La campagne pour les législatives n'est pas encore lancée et certains, comme Éric Zemmour, hésite à se présenter. En Turquie, la rue brave la répression et manifeste après la condamnation d'Osman Kavala. Enfin, ce fut l'une des plus efficaces désinformations de la Seconde Guerre mondiale. Tromper les Allemands sur le débarquement en Sicile, c'est raconté aujourd'hui au cinéma.
Les invités de France Inter aujourd'hui, avec vous Léa, à 7h50.
Oui, vit-on un tournant dans la guerre en Ukraine avec la décision hier des États-Unis et de plusieurs pays européens d'envoyer des armes lourdes en Ukraine? Qu'est-ce que cela va changer concrètement sur le terrain? L'Ukraine pourra-t-elle gagner plus rapidement la guerre? On fait le point à 7h50 avec Pierre Servant, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour parler d'un événement économique, numérique, politique. Elon Musk s'offre le réseau social Twitter. Trois invités au micro d'Inter, Gérald Bronner, Olivier Tesquet, Julia Cagé dans le grand entretien. Posez-leur vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. Ça devait arriver tôt ou tard, l'arme du gaz dégainée par Moscou. À partir d'aujourd'hui, deux pays, membres de l'OTAN et de l'Union européenne, sont privés de gaz russe, la Pologne et la Bulgarie. Gazprom les a informés hier qu'il suspendait ses livraisons. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Anaïs.
Que cherche véritablement Moscou ?
Oui, contentieux d'ordre commercial ou nouvelle escalade dans le conflit, peut-être bien un peu des deux. Vous le savez, afin de soutenir sa monnaie nationale en pleine dégringolade, la Russie a exigé que ses clients occidentaux paient leur gaz en roubles depuis des comptes russes. La Pologne a toujours refusé de le faire et la Bulgarie dénonce elle aussi cette procédure de paiement. Possible que ces deux pays paient leur intransigeance. En tout cas, chacun affirme ce matin être capable de diversifier ses approvisionnements. Il n'y aura pas de pénurie, affirme la Pologne comme la Bulgarie. Mais attention, ce second pays est totalement dépendant du gaz russe qui représente 90% de sa consommation. Presque 60% pour la Pologne. Alors la Russie le sait bien sûr et elle envoie un signal très clair. Alors que les Européens peinent à se mettre d'accord sur les sanctions à l'encontre du gaz russe, Vladimir Poutine rappelle que cette arme peut se retourner contre eux et qu'il peut lui-même fermer le robinet. Sachant que la Pologne est particulièrement virulente contre Moscou, très engagée dans la livraison d'armes à l'Ukraine et plaque tournante de ses livraisons, clairement dans le viseur du Kremlin, donc c'est moins le cas pour la Bulgarie, d'où ses interrogations sur les motivations réelles de Vladimir Poutine.
Louise Baudet de la rédaction internationale sur le terrain des combats, les Ukrainiens à la peine sur le front du Donbass, des troupes, des équipements militaires, des dépôts de munitions visés par des missiles russes, ponts, voies ferrées bombardées, retard de l'acheminement des armes, et puis la ville de Zaporijjia touchée hier se prépare à une attaque des Russes venant de la côte. Russie, Ukraine, frères hier, ennemis aujourd'hui. Deux pays pour lesquels rien ne sera jamais plus comme avant. À Kiev, un monument historique de l'époque soviétique érigé en 1982 pour célébrer l'amitié entre les deux peuples a été démoli hier. Ce n'est que le premier d'une longue série qui veut effacer ces relations désormais brisées. Nos envoyés spéciaux Farida Noir et Fabien Gosset ont assisté à la destruction.
C'est la tête de l'ouvrier russe qui tombe la première. Beaucoup attendent leur tour pour se faire prendre en photo avec l'imposante pièce en bronze, en grimpant dessus ou en faisant lever de la victoire comme Boris et Ilya. Pour ces deux amis, la décision de détruire cette arche de l'amitié est la bonne.
Bien sûr, car il n'y a plus aucune amitié entre les deux peuples. Je pense qu'il fallait déjà le faire en 2014.
Je viens de l'Est de l'Ukraine et là-bas les Russes ont pris ma maison. Avec ce qui se passe, je ne vois pas comment on peut être amis ni comment on peut avoir des relations normales avec les Russes.
La statue représentant un travailleur russe et un travailleur ukrainien tenant ensemble dans les mains un symbole soviétique avec l'inscription « Amitié entre les peuples et ta terre », les deux hommes de bronze désolidarisés l'un de l'autre.
C'est une réponse à ce qui se passe en ce moment. La Russie est un tyran, ils oppressent. Chaque jour, ils détruisent nos maisons et nos vies.
Anatoly regarde la grue charger les morceaux de la statue à l'arrière d'un camion. Il se réjouit de voir ce spectacle.
Cette horde de Russes a toujours fait souffrir les Ukrainiens. Il faut qu'on se défende contre cette invasion.
Selon le maire de Kiev, 60 autres monuments associés à l'URSS et à la Russie seront démantelés prochainement. Plus de 460 rues seront également rebaptisées.
Reportage de Farida Noir et Fabien bien gosser. La guerre, c'est aussi depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, cette série de suicides d'oligarques russes, et c'est à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h05, à cette semaine des législatives, les tractations politiques s'intensifient.
Objectif clair pour La République En Marche, surfer sur la victoire présidentielle pour assurer une majorité à l'Assemblée nationale. Ça passera par des débauchages à droite et à gauche. À gauche, justement, tournant majeur pour le Parti Socialiste qui discute aujourd'hui avec la France Insoumise. Ça ne va pas de soi pour tout le monde. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, demande à ceux qui pensent, comme Stéphane Le Foll, je cite, que le PS est mort, de partir et de rejoindre La République En Marche. À l'extrême droite, Jordan Bardella lancera la campagne du Rassemblement National demain à Fréjus. Le RN pourrait rafler jusqu'à une centaine de sièges. Sans doute sans le parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui a pourtant réitéré hier sa main tendue à Marine Le Pen et qui hésite lui-même à se lancer, Anne Souhaitemont.
Ils sont plusieurs, y compris des amis proches, à le pousser à se présenter aux législatives. Mais au lendemain de la présidentielle, Éric Zemmour le confirme à France Inter, il hésite. Et pour cause, même lui, l'ancien candidat, n'a aucune assurance d'être élu, y compris là où il fait ses meilleurs scores, région parisienne, Var et Bouches-du-Rhône. Où qu'il aille, ce sera compliqué, décrypte un membre du comité politique. Mais attention, ne pas y aller ne serait pas un bon signal, prévient un élu. D'autant que le RN a été clair, si l'ancien candidat se présentait aux législatives, il aurait un adversaire RN en face. Les attaques violentes à l'égard de Marine Le Pen ont du mal à passer. Des arrangements tacites pourraient en revanche être trouvés dans une poignée d'autres circonscriptions. Quid des autres cadres de Reconquête? Enceinte, Marion Maréchal hésite. Les eurodéputés venus du RN, Nicolas Bay et Jérôme Rivière, ne seront pas candidats. Pourquoi prendre un tel risque quand les chances de l'emporter sont si minces? De quoi susciter des remous en interne? Il faut que les politiques se positionnent, s'inquiète un cadre. Zéro député, c'est la mort de Zemmour, salive un élu LR.
Enfin, du côté du parti d'Édouard Philippe, Horizon, on attend toujours les discussions avec la majorité. Des cadres se disent surpris qu'elle n'ait toujours pas commencé. Horizon vise 30 à 40 députés, mais son influence pourrait être réduite en cas de dépochage de députés LR. Alors que le chef de l'État effectue aujourd'hui sa première sortie publique depuis sa réélection, Emmanuel Macron préside à 16h l'hommage national à Michel Bouquet, monument du théâtre français décédé mi-avril à 96 ans. Ils ont le moral, les professionnels du tourisme. Après une saison hivernale exceptionnelle en montagne, l'été s'annonce tout aussi radieux. Le ministre du Tourisme en donnait hier les premières indications. Philippe Lefebvre, tout le monde se frotte les mains.
Eh bien, la première bonne nouvelle, c'est que 60% des Français auraient l'intention de passer leurs vacances une nouvelle fois dans l'Hexagone, la moitié d'entre eux au bord de la mer. L'envie de vacances est donc bien là, et les réservations sont déjà à la hausse par rapport à 2019. C'est ce que constate Karim Soleyavoup, le directeur de la chaîne Logis Hôtel.
Les réservations sont à plus 40%. Alors, on n'affiche pas encore complet, mais je pense qu'il ne faut pas trop tarder si on veut pouvoir choisir l'hôtel et la destination pour cet été. On a 4 régions qui affichent une croissance supérieure à 50% par rapport à l'été 2019. On a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, et on a également Auvergne-Rhône-Alpes qui ressort comme grand gagnante, là aussi, d'un nouveau tourisme de découverte.
Et dans les campings, la tendance est la même, avec une hausse de 24% des réservations, et cela ravit Nadège Mandin, la co-gérante du camping de la Venise Verte dans les Deux-Sèvres.
A priori, là, les réservations pour tous nos locatifs, donc chalet, mobilhome et écolodge, on est déjà rempli à peu près 40-50%. On devrait être peut-être complet à partir, d'ici à peu près un mois.
Enfin, dans les grandes villes boudées durant la crise Covid, on retrouve le sourire, puisque 29% des vacanciers français auraient l'intention de profiter des prochaines vacances pour découvrir ou redécouvrir les grandes métropoles françaises.
Philippe Lefebvre.
Il est 7h09, la vague de protestations s'amplifie après la condamnation en Turquie d'Osman Kavala.
L'Union européenne, à son tour, regrette profondément la condamnation à perpétuité de l'opposant à Recep Tayyip Erdogan, accusé d'avoir tenté un coup d'État, ce qu'il a toujours nié. La Turquie a d'ailleurs été épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'avoir détenu sans preuve. Une illustration de plus de la chape de plomb sur le pays. Hier, des centaines de personnes sont descendues dans la rue. Une première depuis bien longtemps dans un pays qui n'ose plus manifester par peur de la répression. Rassemblement suivi à Istanbul, non loin de la symbolique place Taksim, par Anand Loer.
Se réunir dans la rue, être vu et se faire entendre pour Kemal Akdemir, un ouvrier, dénoncer le verdict qui accable Osman Kavala et ses co-accusés, c'est aussi lutter pour le droit de manifester en Turquie.
Ce verdict est une tentative d'intimidation du pouvoir envers tous ceux qui ne votent pas pour lui. La question, c'est de savoir si vous réagissez ou non. Les barrages de police autour de nous font partie de cette tentative d'intimidation.
Les manifestants entonnent les slogans de Gezi, ce mouvement de protestation de l'été 2013 qu'Osman Kavala est accusé d'avoir financé. Denise, une avocate, balaye la foule du regard. Elle craint que le verdict ait en partie atteint son but.
Gezi avait rassemblé plus de 3 millions de personnes dans toute la Turquie. Comme vous le voyez, nous ne sommes même pas 3 000 rassemblés ici aujourd'hui.
Serdar Erbaş, membre du Parti des Travailleurs, dénonce aussi un climat de peur.
Les gens ont peur de publier un simple message sur Twitter. À leur manifester, je peux comprendre en partie les craintes de ceux qui n'osent pas manifester avec nous. J'espère que ce climat de peur prendra fin, que ce pouvoir chutera et que nous pourrons reconstruire une belle Turquie.
Les élections doivent avoir lieu en juin 2023. D'ici là, le débat risque de grandir au sein de l'opposition, entre ceux qui appellent à se mobiliser dans la rue et ceux qui craignent que le pouvoir n'instrumentalise à son profit le moindre mouvement de contestation. Anne-Laure Istanbul, RFI France Inter.
En football, tout reste possible pour le Real Madrid après cette demi-finale de Ligue des Champions de folie. Victoire de Manchester City 4 à 3 face à un flamboyant Karim Benzema, auteur d'un doublé pour son équipe du Real. Et puis le foot ukrainien arrête finalement la saison. Le championnat n'avait pas repris depuis l'invasion russe. Pas de titre cette année, mais le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev, les deux premiers, participeront aux qualifications de la Ligue des Champions. Enfin, connaissiez-vous cet épisode de la Seconde Guerre mondiale, cette opération des Alliés pour faire croire aux Allemands un débarquement dans les Balkans au lieu de la Sicile? Le film La Ruse nous le raconte. Il est aussi efficace qu'un rocambolesque plan des services secrets de Sa Majesté Alexis de Meyer.
Opération viande hachée, même en pleine guerre mondiale, l'humour british s'est donc infiltré dans le très sérieux service de contre-espionnage. De 1939 à 1943, des officiers à l'imagination débordante échafaudent un scénario digne d'Agatha Christie. Ils inventent méticuleusement l'identité et le passé d'un cadavre, censé être celui d'un soldat anglais mort noyé, avec dans la poche une lettre contenant des fake news. L'armée allemande a mordu à l'hameçon, permettant le succès du débarquement allié en Sicile. Colin Firth, tête d'affiche de La Ruse, est entouré d'un casting très série compatible, puisqu'on retrouve ici des acteurs vus dans The Crown, Downton Abbey, Boardwalk Empire et Succession. Dommage que la réalisation de John Madden soit si académique, comme si la puissance de ce récit lui avait suffi. Il tourne le dos à toute ambition formelle, mais ce divertissement est très agréable et bien sûr passionnant d'un point de vue historique. Cerise sur le gâteau, l'un des personnages principaux est un certain Ian Fleming, cet espion qui créera quelques années plus tard le personnage de James Bond. The die is cast.
Ah là, La Ruse de John Madden, c'est aujourd'hui au cinéma.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes en Guadeloupe. La Guadeloupe, le choix de la défiance.